Rock Album, présenté par David Tovis.
Bonsoir, bienvenue dans Rock Album avec ce soir Aymeric Leroy. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on est là pour parler de l'album Red de King Crimson, dont qu'avait évoqué dans un dossier sur le groupe la revue Big Bang, à laquelle tu collabores depuis un certain nombre d'années.
Oui, on peut même dire que je suis son cofondateur depuis 15 ans.
Et dans cette revue, tu es notamment spécialiste.
En particulier de la scène de Canterbury, donc Soft Machine et les groupes de cette famille.
Une scène à propos de laquelle tu as créé un site aussi internet.
Voilà, qui s'appelle Calyx.
Et pour finir la présentation de notre invité, donc, on pourrait ajouter qu'il fait partie de l'équipe rédactionnelle d'un dossier d'une trentaine de pages, sur l'Europe progressif, qui vient de paraître dans le bimestriel Musique, qui a en couverture Serge Gainsbourg, dont on parlera dans une future émission d'ailleurs. Alors, Red de King Crimson, c'est un des grands albums du rock progressif, toute période confondue, tout style et tout pays confondu. Mais on peut quand même dire que c'est essentiellement le projet d'un artiste. Est-ce que tu peux nous présenter cet artiste et qui il est?
Alors, King Crimson, c'est devenu en fait au fil des années le bébé du guitariste et compositeur Robert Fripp. Au départ, c'était pas forcément le cas, c'était un groupe tout à fait pluraliste, mais le fait est qu'après avoir sorti leur premier disque, donc In the Court of the Crimson King en 69, qui est considéré comme le premier disque de rock progressif, deux des musiciens principaux sont partis et en gros Robert Fripp s'est retrouvé tout seul, et dès lors King Crimson c'est un peu devenu lui plus des musiciens qui ont changé assez régulièrement pour se stabiliser quand même à l'époque dont on parle autour de quelques figures plus stables quoi.
Alors au moment où l'album sort en 74, il a quand même inventé pas mal de choses Robert Fripp au niveau de son instrument.
Oui, il a mélangé, je dirais, certaines techniques issues de la musique classique, notamment l'utilisation de certaines gammes très complexes de rythmes, ce qu'on appelle des rythmes impairs, donc des techniques de composition très avancées qui n'avaient pas vraiment cours avant dans le rock. Et c'est la principale spécificité du rock progressif d'ailleurs, qui était présente dès le premier disque de King Crimson.
Alors, il y a eu pas mal de mouvements, effectivement, parmi les musiciens qui l'accompagnaient depuis 69. Mais là, en 74, c'est beaucoup plus renouvelé. Enfin, c'est pratiquement 100% par rapport à l'album précédent, ou je me trompe?
Non.
Aux deux albums, pardon, parce qu'il y a eu tout un cycle qui a commencé.
Il y a une sorte de trilogie, on peut dire, avec la même section rythmique. Donc, John Wetton à la basse et au chant, par ailleurs, et Bill Bruford à la batterie. Donc ça, c'est un groupe qui est né en 72. Et dont Red est le troisième album, donc il y a eu Lark Songs in Aspic, Starless and Bible Black, et Red donc est le troisième, où ils sont devenus un trio, donc avec juste ces trois-là.
Et alors, les deux autres étaient déjà des grands noms quand ils arrivent dans ce groupe-là?
Alors, John Wetton, pas forcément, c'était un bassiste en fait qui n'était pas encore chanteur avant d'intégrer King Crimson, c'est devenu l'une des grandes voix du rock progressif, mais avant il était bassiste notamment du groupe Family. Bill Bruford, par contre, lui était le batteur des 4 ou 5 premiers albums de Yes, donc également l'un des grands ténors du rock progressif. Voilà, donc il y avait un peu un côté super groupe, effectivement, quand même.
Alors, on va parler, bien sûr, en détail de cet album, mais on va écouter tout de suite un premier extrait, donc, qui est le morceau d'ouverture qui donne son nom à l'album. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Bah alors, le morceau Red, c'est un morceau qui est très, très particulier à cet album, puisque donc King Crimson venait de perdre son violoniste David Cross, et donc devenir un trio. Donc c'est un morceau qui est juste en guitare, basse, batterie, bon, avec des guitares superposées en l'occurrence, mais donc qui marquait l'irruption d'un son très power trio, beaucoup plus rock, quoi.
Voilà, donc une forme d'agressivité un petit peu inédite dans King Crimson, encore que. C'est le morceau Red, donc, et c'est l'album dont on parle ce soir dans Rock Album. We'll be right back. Voilà, c'est l'arrivée du violoncelle qui nous permet de reprendre la parole sur Judaïque FM pour Rock Album, consacré au raid de King Crimson. Donc là, on est toujours avec Aymeric Leroy pour parler de cet album. C'est un morceau entièrement instrumental et King Crimson, déjà au début de sa carrière, avait quand même, comme la plupart des groupes de rock progressif, une place réservée pour de longues parties instrumentales. Est-ce que ça a changé sur cet album-là, par exemple ?
Disons que ce groupe a été de loin le plus instrumental de King Crimson, bizarrement, alors qu'il y avait John Wetton qui est devenu donc un...
Cet album, tu veux dire, parce que ce groupe...
Ce groupe, le groupe dont on parle, c'est-à-dire avec John Wetton et Bill Bruford, c'est un groupe qui pratiquait beaucoup l'improvisation. D'ailleurs, il y a un morceau totalement improvisé sur l'album qui s'appelle Providence. Et donc les passages chantés finalement étaient plus des respirations qu'autre chose. C'était quand même essentiellement un groupe porté vers l'instrumental, quoi.
Alors qu'il avait recruté celui qui est peut-être le chanteur le plus compétent.
Ouais, mais qu'il est devenu. Alors le plus compétent, je sais pas. C'est un peu particulier. Wetton, le premier chanteur de King Crimson qui s'appelait Greg Lake. Lui, on peut dire que c'est un chanteur qui avait une voix assez exceptionnelle. Bon, qui d'ailleurs après a exercé plus dans des choses un peu variétisantes parce qu'il en avait le potentiel justement. Mais Wetton, à la base, il s'est révélé en tant que chanteur dans King Crimson et il n'a pas été recruté pour ça. D'ailleurs, il a failli intégrer le groupe une première fois à l'époque où il y avait un autre chanteur en tant que simple bassiste.
D'accord. Alors, comment expliquer donc ce parti pris du quasi-instrumental chez Fripp qui dirigeait quand même la machine ?
Disons que ça, c'est sans doute un peu l'influence du jazz, des musiques improvisées qu'il y avait à l'époque. D'ailleurs, dans ce groupe, au départ, il y avait un percussionniste qui s'appelait Jamie Muir, qui était vraiment, lui, issu du free jazz et des musiques improvisées. Donc il y avait une très nette tendance à partir dans des choses totalement imprévues. Une posture assez anticommerciale, sans doute aussi, donc éviter le formatage pop... par tous les moyens, aussi bien dans des morceaux très composés et très complexes, ou alors des choses qui démarraient de façon complètement imprévue.
Alors, on voit, j'espère que les auditeurs s'en rendront compte, mais c'est un album particulièrement réussi, particulièrement brillant, que ce soit justement dans les passages instrumentaux ou dans le soin apporté aux mélodies ou aux arrangements, et pourtant... Robert Fripp va décider, alors je sais pas s'il aura décidé avant ou après, que c'est la fin.
Alors c'est un peu compliqué cette histoire parce qu'en fait il s'est passé à peu près une semaine entre le dernier concert de King Crimson, donc ils étaient encore à 4, et l'entrée en studio pour enregistrer cet album. Donc entre temps il s'était débarrassé du violoniste, et Robert Fripp pendant cette semaine là a eu une espèce de révélation spirituelle, une espèce de grand traumatisme mystique, et en fait il a décidé qu'il allait se retirer du monde musical et pendant 2 ans, ce qu'il a fait d'ailleurs après, jusqu'en 77. Et donc il s'est présenté au studio de façon complètement introvertie, donc en ayant décidé de faire le strict minimum, parce que bon, il s'acquittait d'une sorte d'obligation contractuelle, mais il avait tout à fait autre chose en tête, quoi. Donc apparemment, d'après les deux autres musiciens, la réalisation de l'album a été un cauchemar, parce que Fripp était complètement replié sur lui-même, et ils ont dû un petit peu gérer les affaires courantes avec un capitaine qui n'était plus maître à bord, quoi.
Et pourtant, en dehors de cette quête personnelle, donc spirituelle, il semble qu'il ait aussi considéré que d'un point de vue purement artistique, il était dans une impasse, et d'ailleurs l'ensemble du mouvement progressif l'était.
Oui, alors bon, la relation de Fripp avec le rock progressif a toujours été très compliquée, parce que bon, King Crimson, et lui le reconnaît, a été l'un des fondateurs de rock progressif, mais lui considère que ce King Crimson-là, donc, qui était très porté sur l'improvisation, très expérimental, ne relève pas vraiment du rock progressif. Donc bon, les conclusions que lui a pu tirer pour ce courant-là en général sont un peu sujettes à caution, quoi. Le fait est qu'il y avait une problématique de carrière à ce moment-là pour King Crimson, qui était de savoir si... Ils allaient percer commercialement. Ils étaient juste à la veille de franchir un cap qui les ferait passer de jouer dans des salles de taille moyenne à passer carrément dans des grandes salles. Et lui, le peu qu'il avait goûté de ce genre d'expérience, le convainquait pas du tout. Il trouvait que le rapport avec le public était complètement distendu, quoi. Et il voyait parallèlement des groupes formés par d'anciens gens de King Crimson, notamment Emerson, Lake & Palmer, qui est donc l'un des groupes emblématiques du rock progressif, dont l'un des leaders était Greg Lake, l'ex-chanteur de King Crimson, il voyait une espèce de dérive dans le gigantisme qui lui ne le convainquait pas du tout, quoi.
On écoute un deuxième extrait de l'album Red de King Crimson qui s'appelle Fallen Angel.
Je suis un peu long là.
David Togis sur Judaïque FM.
Et nous sommes toujours avec Aymeric Leroy pour évoquer le Red de King Crimson sorti en 1974 avec donc ce trio composé de John Wetton à la basse et au chant et de Bill Bruford à la batterie. Alors sur le contenu du CD, on vient de découvrir deux morceaux et on a parlé notamment de l'état d'esprit de Robert Fripp. Un des titres qui est complètement improvisé, tu l'as dit tout à l'heure. Alors, comment ça s'est décidé, ce genre de choses, improvisé, composé, etc. La taille des solos
C'était très simple. King Crimson, à l'époque, il y avait deux moments dans chaque concert où il partait dans une improvisation totale, quoi. Donc là, il y avait une setlist qui comprenait l'ensemble de leur répertoire de l'époque et deux passages improvisés. Donc là, en l'occurrence, Providence, c'est la deuxième improvisation qu'ils ont faite dans un concert dans la ville de Providence, dans le Rhode Island. près de New York.
D'accord, et donc ça veut dire qu'ils l'ont repris tel quel d'un concert joué
Tel quel, d'ailleurs, il est disponible aussi sur un coffret qui s'appelle The Great Deceiver, un coffret de 4 CD où on entend un peu ce qui se passe après la fin du morceau sur l'album. Il y a une espèce de fin au violon, et là on voit ce qui se passait en fait pendant les 2 ou 3 minutes d'après. Voilà, donc c'est à peu près quand même l'intégralité de cette improvisation.
Et là, c'est vraiment complètement inédit, parce que c'est vrai que même si les autres morceaux sont très construits et parfois très longs, je crois que c'était peut-être un des seuls groupes de rock progressif qui faisait ce genre de choses.
Bah, en tout cas, dans le rock progressif, je dirais quand même un peu mainstream, c'était le seul. Après, il y avait des groupes comme Enrico, par exemple, beaucoup plus obscurs, qui pratiquaient l'improvisation totale. Ça pouvait durer 20-25 minutes, et par ailleurs, des choses très très complexes. Mais sur le cas de Providence, c'est quand même l'une de leurs improvisations qui ressemble le plus à une composition où il s'est passé ce soir-là quelque chose d'assez exceptionnel, où on a vraiment l'impression qu'il y a une coordination entre les musiciens, alors que certaines autres de leurs impros, par exemple sur l'album d'avant, il y a le morceau Starless and Bible Black, qui est beaucoup plus décousu, quoi.
Est-ce qu'on peut considérer que dans ces moments-là et dans le reste de l'album, les deux autres musiciens, donc Wetton et Bruford, avaient vraiment... une certaine liberté pour composer, ou simplement ils se contentaient de faire ce qu'on leur disait?
Non, là c'est clair que dans ce groupe-là, il y avait une grande autonomie de la part des musiciens, et d'ailleurs ils prenaient part à l'écriture dans le cas de Starless, par exemple, toute la deuxième, donc le dernier morceau de l'album, toute la deuxième partie est partie d'un riff de basse qui a été écrit par Bill Bruford, donc le batteur. Donc il y a John Wetton aussi, le morceau qu'on vient d'écouter, Fallen Angel, lui a écrit, c'est même lui qui a, non, il n'a pas écrit les paroles, mais enfin, à la base c'est parti d'une chanson de lui, quoi, donc qui a été réadaptée, crimsonisée on peut dire, par Robert Fripp, ce qui était souvent le cas, c'était leur méthode de travail, c'était de partir d'une chanson toute simple de John Wetton et de la complexifier, de la rendre plus bizarre avec le travail de guitare de Robert Fripp.
Est-ce que tu sais comment a été accueilli l'album à l'époque ?
Bah, l'album il est sorti juste après l'annonce de la séparation du groupe, donc c'est un contexte un peu particulier qui fait qu'il n'a pas été accueilli comme sur ses simples vertus musicales, quoi. Donc on a beaucoup ergoté, je dirais, surtout l'extra musical et toutes les déclarations de Robert Fripp qui avaient entouré la sortie, auxquelles tu faisais allusion tout à l'heure, sur les... je dirais la fin d'une époque pour les musiques progressives. Donc ça a été clairement ressenti comme la fin d'une époque, la fin d'un grand groupe, et voilà, enfin un groupe qui partait au sommet avec sans doute son meilleur album aux yeux de beaucoup.
Et est-ce que les autres groupes progressifs ont réagi par rapport à ça? Parce que d'une certaine manière, ils étaient presque un peu eux-mêmes visés par ce
oui,
discours.
Mais quelque part, en fait, la plupart des groupes dont on parle, je pense notamment à Yes ou à Emerson, Lake & Palmer, à ce moment-là, ils ont traversé des phases où ils ont disparu de la circulation pendant 2 ou 3 ans. Bon, Yes, il n'y a pas eu d'album entre 74 et 77, et ELP aussi d'ailleurs. Donc il y a eu quand même une période pour l'ensemble du courant progressif de remise en question, parce que on était allé au bout clairement de quelque chose. Et donc Robert Fripp, lui, en a tiré la conclusion carrément d'arrêter, et les autres, bon, se sont retrouvés un peu dans une impasse créative où ils savaient plus trop où aller après avoir repoussé toutes les barrières qu'ils avaient essayé de repousser chacun dans leur registre.
Quelques mots sur le morceau One More Red Nightmare.
Alors ce morceau-là, donc qui a la particularité d'avoir des paroles et musique de John Wetton. Donc comme le précédent, on parle un peu de l'enfer urbain aux États-Unis. Donc cette première phase est quand même très dominée par des atmosphères urbaines un peu oppressantes, quoi. Donc celui-là parle d'une espèce de voyage un peu apocalyptique dans un avion. Enfin, voilà.
Et c'est donc à l'époque du vinyle ce qui clôturait la première phase du disque. We'll be right back. Judaïque FM 94.8, c'est toujours Rock Album, et on parle ce soir de l'album Red de King Crimson. C'était donc un extrait, parce qu'on est obligé avec les longs morceaux de ce groupe, un extrait donc de One More Red Nightmare, toujours donc avec une forme très élaborée d'arrangement, et beaucoup, Aymeric Leroy, de musiciens invités finalement.
Alors avec... là, on vient d'entendre par exemple avec un saxophone quelque peu traité par des effets sonores que je ne saurais détailler, le saxophoniste Ian McDonald, donc, qui était le cofondateur du groupe avec Robert Fripp, qui est revenu faire un petit tour sur deux morceaux de cet album. Voilà, et puis un invité dont on parlait pendant le morceau, c'est une cymbale très particulière que Bilbo Ford a trouvé plus ou moins dans une décharge, je sais pas trop, qu'on entend au début du morceau, qui a un son très particulier. Elle était fendue, je sais pas trop quoi, et elle a tenu juste le temps d'enregistrer le morceau, et elle a cassé définitivement, et donc c'est un son qu'il n'a jamais réussi à retrouver par la suite, ce qui tombe bien vu que le morceau n'a jamais été joué en concert.
Mais finalement, dans les instruments qu'on retrouve, est-ce que c'est une marque de fabrique que le groupe avait gardée dès le départ, des instruments notamment venus du classique et du jazz ?
C'était l'une des spécificités qu'ils ont perdu d'ailleurs quand ils se sont reformés dans les années 80, où tout est devenu très guitare, synthé, ce genre de choses. C'était effectivement d'avoir des ouvertures sur le jazz et le classique, donc il y avait beaucoup de saxophones, de violons, de percussions en tout genre, y compris... aussi des orchestres, des sections de cuivre sur certains albums précédents. Là, il y a déjà quand même un mouvement sur ce disque-là de se resserrer sur une instrumentation plus rock, quoi. Et donc avec quand même quelques solos de saxophone ou de trompette, un petit peu de hautbois, on a entendu tout à l'heure dans Fallen Angel. Mais ça reste décoratif, quoi. Voilà.
Combien de temps, si ça a eu lieu, durera la tournée qui suivra l'album ? Est-ce qu'il y aura une tournée après cet
album ? Non, il a failli y en avoir une, mais justement, la décision de Robert Fripp de que le groupe se sépare aura mis fin à tout projet de ce genre, quoi. Donc, ils sortaient d'une tournée mais où ils avaient joué d'ailleurs le morceau Starless, mais les trois morceaux de la première phase étaient inédits, n'avaient jamais été joués avant, et... D'ailleurs, pour deux d'entre eux, parce que Red a été joué après dans les années 80, mais deux d'entre eux n'ont jamais été joués sur scène, d'ailleurs, y compris par les membres du groupe, avec leur groupe suivant.
Donc c'est assez particulier, parce qu'il y a eu un album, je crois, qui s'appelle USA, qui retrace une tournée de ces époques-là, mais ça ne correspondait pas à l'après Red.
Non, pas du tout. Non. En fait, USA est tiré d'un concert à Providence, donc c'est le reste du concert dont vient le morceau, dont on va passer un bout a priori maintenant, qui est donc l'impro du concert, et l'album USA, c'est le reste de ce concert.
Un extrait donc de Providence, chose étonnante, même dans le contexte progressif, une improvisation au milieu d'un album, c'est donc toujours extrait de Red. Thank you.
Album, une émission de David Togis sur Judaïk FM.
Et oui, Providence, donc un morceau pas du tout évident, très aventureux, qui rappelle quasiment la musique contemporaine, dont on peut dire que c'est une influence, Emeric, de King Crimson aussi. Hein.
Oui, puisque ça peut partir dans le bruitisme total, dans des choses effectivement totalement improvisées. Là on a entendu à la fois du violon, on entend également un instrument dont on n'a pas encore parlé mais qui s'impose dans le King Crimson, qui est le mellotron. Et en fait, bizarrement, sur la première phase de Red, il n'y a pas du tout de mellotron, qui était quand même l'instrument emblématique de King Crimson. Et donc là, dans le morceau qu'on vient d'entendre, il y avait un mellotron donc, qui est une sorte de synthé primitif à base de bandes, où il y avait soit des violons, soit des flûtes qui étaient enregistrées dessus. Et donc on appuyait sur une touche et ça passait des nappes, soit de cordes, soit de flûtes. Et là donc on entendait un petit duo entre David Cross au violon et Robert Fripp qui jouait du mellotron flûte.
Alors le mellotron, c'est quand même rigolo parce que c'est pas seulement emblématique de King Crimson, c'est pratiquement emblématique de tout le rock progressif, et c'est un instrument très très compliqué à jouer en fait. Hein.
Très compliqué. Disons qu'il y a des grosses contraintes, voilà. C'est-à-dire que on peut jouer que 3 notes à la fois. Et on peut, par ailleurs, je crois qu'elle dure 8 secondes maximum le temps que la bande se déroule, donc c'est pour ça qu'il y avait... ça imprimait un rythme assez particulier au rock progressif, parce qu'il fallait changer d'accord toutes les 8 secondes maximum, donc il y avait un peu des nappes symphoniques qui étaient en constant mouvement par nécessité liée à l'instrument, quoi.
Et on reconnaît tout de suite, donc c'est très curieux, dans un morceau, ça ne ressemble pas à l'orgue, ça ne ressemble pas à des claviers avec des sons de piano.
C'est censé ressembler à un orchestre, mais c'est une assez mauvaise imitation d'un orchestre, mais qui est devenu un instrument mythique à part entière par son imperfection, en fait, finalement.
Et qui a beaucoup de charme. Alors, on peut commencer à parler un peu de l'après, l'après Red, l'après King Crimson, on peut appeler ça peut-être une deuxième mouture. Donc... que sont devenus les autres, pas seulement Fripp?
Fripp donc a fait cette retraite spirituelle. Après, il est réapparu notamment avec Peter Gabriel et David Bowie dans leur carrière solo. Il a fait un peu de scène à cette occasion. Quant à Wetton et Bruford, ils ont d'abord un peu cachetonné. L'un, Bruford chez Genesis, Wetton chez Uriah Heep, donc un groupe de métal, chez Roxy Music, Brian Ferry, ce genre de choses. Et ils se sont retrouvés, donc Wetton et Bruford, dans un groupe qui s'appelait UK, qui est un peu l'un des derniers grands super groupes progressifs des années 70. Et Bruford et Fripp, eux, se sont retrouvés au début des années 80, quand Fripp, après ce septennat d'obscurité, on peut dire, a décidé de revenir en première division du rock, pour reprendre ses propres termes, et recréer un nouveau King Crimson, là avec donc toujours Bruford, mais deux Américains, donc un Crimson transatlantique, avec Adrian Belew au chant, la guitare, et Tony Levin à la basse.
Alors on peut aussi donner des précisions sur l'album en tant qu'objet, puisqu'il a fait l'objet de plusieurs rééditions, qui sont maintenant d'assez bonne qualité, je pense.
Il y a eu plusieurs remasterisations successives, effectivement, une première en 89 qui s'appelait soi-disant la Definitive Edition, mais qui a été suivie de beaucoup d'autres éditions de plus en plus définitives. Et bon, j'espère que la dernière que j'ai également achetée sera la dernière.
Donc celle qu'on a diffusée ce soir, c'était celle du 25e anniversaire.
Du 30e.
Du 30e, pardon.
Ouais, 2004,
Oui, c'est à peu près plus logique. Et c'est celle que vous trouverez le plus facilement, j'imagine, dans le commerce.
Voilà, qui a un beau livret avec des coupures de presse et tout ça, donc c'est
assez
sympathique.
Pour les curieux, quelques autres références de King Crimson, là je vais te laisser prendre des risques, sur quoi il faut s'intéresser d'autres, pour ceux qui auraient aimé les extraits qu'on a écoutés.
Donc les albums principaux?
Oui.
Évidemment le premier, quoi, qui est un peu l'œuvre fondatrice du courant progressif et de King Crimson. Red s'impose. Je sais pas s'il faut en citer trois. Je dirais aussi Discipline, donc qui marque l'entrée dans les années 80. Voilà, on a un peu les trois grands albums. Mais bon, tous à leur manière, de façon plus ou moins aboutie, ont leur intérêt, aussi bien des Lizards que des Lark Songs in a Speak, enfin bon, voilà, tout est de bonne qualité de toute façon.
Alors on écoute, parce qu'on a évidemment pas assez de temps, donc on a été obligé de mettre en fond sonore le morceau Starless, donc y compris dans sa partie chantée, avec John Wetton au chant et à la basse. Et, est-ce que tu connais la version de Craig Armstrong ?
Non, pas du tout. Alors, je connais Craig Armstrong de nom, mais je n'ai pas entendu cette version.
Alors, il a appelé ça Starless 2, on n'aurait pas eu le temps non plus de la diffuser, mais disons que c'est assez fidèle dans l'esprit, et c'était un bel hommage quand même pour un artiste qui, à ce moment-là, avait un bon buzz, de rendre hommage à King Crimson en ouvrant sa musique à tout un autre public. Donc, c'était sur son premier album, et depuis, Craig Armstrong a fait pas mal de musique de film, des choses assez ambitieuses. Je crois même qu'il a écrit un concerto ou une symphonie, mais bref... il étend pas mal ses talents. Alors, pour finir avec King Crimson, peut-être des références, notamment le magazine auquel tu collabores, Big Bang, puisqu'il y a eu un dossier sur Crimson. On en reparlera probablement une autre fois, non, j'imagine, j'espère. Dans Big Bang.
De
aussi.
King Crimson ?
Oui.
Oui, sans doute. Il y a eu aussi des articles plus ponctuels quand il y avait des coffrets qui sortaient, des nouveaux documents d'archives. Et puis la reformation de King Crimson pour août 2008, les premiers concerts depuis 5 ans, donc avec le nouveau line-up qui comprend... ils sont 5, donc avec un nouveau deuxième batteur, donc ça redémarre, donc il y aura forcément des nouvelles choses dont on pourra parler.
Mais peut-être pas en France, les concerts.
A priori, c'est exclu, ouais. Faudra traverser l'Atlantique.
Alors merci beaucoup Aymeric Leroy, donc n'oubliez pas que l'actualité c'est aussi ce magazine Musique qui sort un dossier volumineux sur le rock progressif en dehors des fanzines dont on peut trouver la trace assez facilement sur le net. Et pour notre part, donc on se retrouve dans 2 semaines avec Christophe Delbrouck qui a écrit un livre sur les Who et qui nous aidera à évoquer l'album Who's Next de 1971. On se retrouve aussi samedi prochain à minuit avec un Schmock Underwater qui tournera autour des titres de chansons avec des prénoms. Et on remercie beaucoup Lucien à la technique. On laisse maintenant la place à RCJ et Judaïque FM revient de minuit à 2h avec le Sababa Show. Bonsoir à tous et à donc dans 1 semaine pour Schmock Underwater et dans 15 jours pour un nouveau rock album.